prendre notre Bible dans l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens, donc, nous sommes au chapitre 2 de cet Épître. Hein. Alors, le chapitre 2 est très connu, et en général, c'est un bon argument de doctrine. Et quand on parle de Jésus-Christ, et bon, c'est un principe d'herméneutique, que dans l'herméneutique, je vais m'expliquer un petit peu quand même, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Mais l'herméneutique, c'est l'art d'interpréter la parole de Dieu. Donc il y a des clés. Et il y a un cours à l'Institut biblique, cours d'herméneutique. Donc par exemple, il y a eu un des principes d'herméneutique, c'est que dans la Bible, il y a des passages qui contiennent la doctrine complètement. Alors, en raccourci, mais vous avez toute la doctrine. Et ce chapitre 2, les premiers versets, les 10 premiers versets, 11 premiers versets, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Voilà, c'est la christologie. Vous tombez exactement, vous avez en résumé toute la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle quand j'étais à l'Institut biblique, on a étudié avec le professeur de doctrine la christologie. Ça s'appelle christologie. Cela a pris un an. Voilà. Un an de cours de doctrine de christologie. Donc c'est le plus long cours qu'il y a à l'Institut biblique, hein, la christologie. Et c'est en fait le personnage principal de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le plus mentionné, c'est lui dont on parle le plus. C'est la doctrine qui est la plus révélée. Et donc c'est ce passage-là. Mais pour rester dans l'esprit de ce passage, de l'Épître aux Philippiens, c'est que cette épître est écrite pour l'unité des chrétiens. C'était justement à cause d'une querelle, hein, je rappelle un petit peu, comme ça vous n'êtes pas, c'est pas seulement une étude biblique, je rappelle un petit peu le passé. Il y avait dans cette église une querelle entre deux dames, Évodie et Saint-Tiche, dont on connaît les noms juste à cause de leur querelle. Paul les mentionne comme étant ayant travaillé avec lui à la propagation de l'évangile. Elles avaient été utiles dans le ministère. Donc vous voyez que le ministère des femmes, dans une certaine mesure, dans l'Église, il était complètement autorisé. Pas la prédication, mais il y a un ministère et elles étaient très occupées dans l'Église et elles avaient une part active. Elles ne faisaient pas que s'asseoir sur des chaises. Et même Paul pouvait dire qu'elles ont été très utiles dans le ministère, dans son ministère. Elles lui ont apporté une consolation et une aide précieuse. Et Paul était désolé de voir que ces femmes, eh bien, se disputaient alors qu'elles étaient des combattantes héroïques, hein, de la foi et de l'évangile. Eh bien, elles avaient eu un moment où elles s'étaient laissées aller à la querelle. En lisant l'épître aux Philippiens, on se rend compte qu'il y a des faux docteurs qui étaient rentrés dans l'église. Et il y avait une querelle par rapport à ces faux docteurs. Alors ça, je m'avance beaucoup. C'est Paul qui dit, hein, prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux mauvais ouvriers. Donc il y avait des personnes, parce qu'il y a les faux circoncis, et etc. Les circoncis, c'est nous. Et donc il y avait des pharisiens convertis qui suivaient Paul et qui détruisaient les églises en voulant implanter le judaïsme, un mélange de foi judaïque et d'évangile. Donc à chaque fois, Paul a eu ce problème avec ces personnes. Et donc et ces personnes, même quand il était en procès à Rome, eh bien, ajoutaient pour le faire condamner et faisaient en sorte de le discréditer. Et ils annonçaient l'évangile d'une manière qui n'était pas pure. Et Paul disait, je m'en réjouis de toute façon, parce que l'évangile est quand même annoncé. Donc, même s'il y avait des tensions avec ces personnes, eh bien, Paul se réjouissait de ce que l'évangile était annoncé. Non pas que les personnes étaient contre lui, mais que l'évangile était quand même annoncé. Et ensuite, donc c'est, je pense que dans l'église, il y avait ce problème et ces dames n'avaient pas sur la manière peut-être de résoudre le problème, elles n'étaient pas d'accord. Voilà. Après, on n'a que des hypothèses, mais je pense que plus ou moins, c'est quelque chose, c'était un problème grave dans l'église des Philippiens, ces gens qui étaient venus et qui apportaient, qui étaient de faux ouvriers, des ouvriers trompeurs, des gens qui étaient des faux circoncis, etc. Donc, Paul insiste beaucoup sur l'unité dans l'église. Et c'est vrai qu'on a beaucoup dit que l'épître aux Philippiens, c'était l'épître de la joie. Mais justement, on parle beaucoup de la joie, et Paul en parle à plusieurs reprises, parce que justement, la joie manquait. C'est pas parce que il voulait mettre l'accent sur la joie, mais il disait, vous avez perdu votre joie. Vous n'êtes plus, vous êtes dans des parties. Alors, il y avait ces deux dames, le pasteur était en train de contempler ce problème. Et dans l'église, il y avait des personnes qui prenaient parti pour l'une ou pour l'autre. Et Paul leur dit, vous n'êtes plus joyeux, vous n'êtes plus dans la joie, parce que c'est mathématique. S'il y a une querelle, s'il y a une division, s'il y a des tensions, on n'est plus dans la joie. On a perdu notre paix avec le Seigneur, on a perdu notre communion, on a perdu l'essentiel. C'est le fruit de l'esprit, hein? C'est la paix, la joie, l'amour, la paix, la joie. Hein? Ça commence par là. C'est le lien de l'esprit. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et dès qu'il y a ce genre de tension et de querelle, eh bien le Saint-Esprit est attristé. Et c'est pour cela que Paul a deux reprises dans cette épître, et deux fois même où il insiste vraiment fortement, il dit, on l'a déjà vu hein, dans le chapitre 1, verset 27, Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je sois absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Hein? Et puis, Paul le reprend au chapitre 2, le verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Si vous avez d'autres termes pour l'unité, eh bien, c'est une fusion. Je ne peux pas parler d'une autre manière que d'une fusion spirituelle. Dans une église, il doit y avoir une pensée fusionnelle. Alors, je sais, hein, je me rappelle de quelqu'un qui disait, oui, mais il est fusionnel, celui-là. Alors, c'était péjoratif, hein? C'était mauvais. La personne le prenait mal. Mais dans l'Église, l'amour fraternel, la communion de l'esprit, la communion de pensée, la communion de sentiments est fusionnelle. L'Église est un corps. Malheureusement, nous sommes satisfaits quand on ne se dispute pas. Voilà, c'est une Église où on ne se dispute pas. Eh bien, c'est le côté négatif des choses. On ne doit pas rester dans le négatif, mais dans le positif. C'est-à-dire que se disputer, amen, vous ne vous disputez pas, mais allez plus loin. Parce que c'est combattant d'une même âme, dans un même esprit, dans une même pensée, dans une même volonté. Si jamais vous avez une idée, vous trouverez trois personnes pour la combattre. Je vais parler un petit peu de certaines réunions où j'assistais. On était 10, voilà. Hein? Je prends un chiffre, n'importe lequel. Hein? Je dis 10. Il y en a un qui émet une idée. Il y en a 9 qui sont contre. Et il y en a 7 qui sont contre. Et il y en a 3 qui veulent la diriger. Et la personne qui a émis l'idée se trouve un peu gênée. Parce que voilà, l'idée, on lui prend son idée, on lui vole son idée. Et je me suis dit, mais j'étais dans le monde, vous savez, et j'étais dans des réunions du monde. Et ces choses-là sont très mal vues. Et dans les églises, malheureusement, Eh bien, c'est presque monnaie courante. C'est l'esprit diabolique, je peux dire, c'est un esprit diabolique qui essaye d'investir l'Église, de prendre possession de l'Église et de nous introduire dans des pensées et dans des sentiments qui ne sont pas de Dieu. Alors, il y a l'esprit de Dieu, mais dès que l'on laisse notre égoïsme, hein, notre individualisme prendre le dessus, c'est un esprit diabolique. Et je ne pèse mes mots, hein. Je ne vais pas dans une. Ce n'est pas une exagération. C'est soit il y a l'esprit de Dieu, soit il y a l'esprit de l'ennemi de Dieu. Et l'esprit de l'ennemi de Dieu, il est là pour créer des divisions, des tensions, des querelles, des mouvements d'humeur, des revendications. Voilà, on est ceci. C'est l'égoïsme. J'ai lu la deuxième épître à Timothée, je pense que c'est hier. Et je suis tombé sur un verset, chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Égoïstes. Et je me dis, l'égoïsme dans le monde, vous l'avez, hein? On regarde, c'est toujours, on peut passer le premier. Je prends un exemple. Voilà, à Perpignan, on n'est plus à Paris, hein? Les Perpignanais sont des gens un peu spéciaux, les Parisiens vont très bien. Mais il y a quand on revient de la mer, alors les gens, en été, il y a un mouvement. Je ne sais pas, il y a 1 000 voitures par 10 minutes qui passent comme ça en flot continu. C'est même pas la peine, si vous avez un stop, vous ne passez pas. C'est tout, hein. Alors, quatre voies. Et vous avez des flèches de rabattement, parce que ça va se terminer en une voie. Et au moment du retour des plages, c'est un embouteillage monstre. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde prend la deuxième file et veut passer avant tout le monde. Si les gens se rabattaient au bon moment, tout le monde passerait, il n'y aurait aucun embouteillage, tout irait bien. Mais comme tout le monde veut passer au même moment, il se trouve bloqué. Alors moi je passe, non je passe pas. Et ça fait des secondes. Je passe, je passe pas. Hop, ça passe. Je passe pas. Et si bien que ces secondes deviennent des heures d'embouteillage, parce que l'égoïsme, on a voulu passer le premier. Ah, ils sont passés les premiers, mais ils ont attendu les premiers aussi. C'est comme cela. Alors bon, hein, je prends cet exemple de la route, vous l'avez constaté des multitudes de fois. Chacun veut être le premier, passer le premier. Mais malheureusement, nous ne sommes pas exempts de cet esprit du monde. L'esprit du monde vient nous chercher à nous aussi et vient nous dire, sois le premier, passe en premier, que l'on te voie, fais-toi un nom. Je me rappelle un jour, j'étais dans une réunion avec des grands responsables. Et alors, il y a un petit responsable qui était là. Et il y avait alors les grands responsables, les gens qui écrivent des livres, professeurs d'université, etc. Et je voyais ce petit qui courait les uns aux autres. Il sautait comme une puce sur les uns et sur les autres. Et il agaçait tout le monde parce qu'il n'avait rien à dire. Et il avait envie de parler avec le grand qui a écrit le livre. Alors bon, il y avait René Pache, il y avait Alexander, il y avait etc., etc. Je cite des noms comme ça. Et il venait, et comme une puce, il venait, il sautait de l'un à l'autre et de l'un à l'autre. Et je me suis dit, mais c'est quand même quelque chose. On doit se respecter quand même. Au moins, même si on n'a pas de sentiment chrétien, on se dit, je ne vais pas me montrer en spectacle et courir à droite et à gauche comme ça. Mais ces gens-là, leur orgueil, leur égoïsme ne leur permet même pas de réfléchir et de voir que leur attitude est ridicule. C'est quelque chose, on se dit, mais c'est pas possible. Et malheureusement, ce sont des chrétiens. C'est dans les églises que ça se passe. C'est pour cela que nous devons faire attention. Il y a un esprit du monde qui est bien dans l'Église, qui prend possession de l'Église, et qui nous prive de l'amour fraternel, qui nous prive de la communion fraternelle, qui nous prive du don des uns et des autres, qui nous prive de l'essentiel, de notre joie, de notre paix, de notre témoignage, de la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que quand il y a des querelles et des tensions et que l'on cherche à être le premier, je peux vous dire que l'Esprit de Dieu ne peut pas être présent. Il n'est pas à l'aise et il ne peut pas agir parce qu'il y a cette recherche des premières places. Je me rappelle une petite expérience qui est, je dis petite parce qu'elle n'a pas été longue, mais elle est très grande dans l'éternité. Nous étions quatre frères en Christ, et on était en train de prier. On a eu un moment de prière, on était dans le ciel. C'est un moment exceptionnel, dont je me souviendrai toute ma vie. Nous étions vraiment dans la présence même de Dieu. Quatre. C'était un samedi. Et puis, le samedi suivant, on était cinq. Et nous étions en enfer. Il y avait une jeune fille qui était avec nous. Elle me haïssait positivement. Mais elle me haïssait ce qui s'appelle me haïr. Elle ne pouvait jamais me parler avec une parole aimable. Même pas aimable. Hein. C'était toujours agressif et méchant. Et même un jour, elle est revenue, elle avait un peu changé. J'ai dit, ah, elle a changé. J'ai noté. C'était un dimanche. Le lundi, elle s'est tuée en voiture. Dieu l'a arrêtée parce qu'il savait que ça ne pourrait pas continuer. Vous savez, c'est ce que je dis est solennel. Je cite cet exemple parce qu'il est très fort. On ne se moque pas de l'Esprit de Dieu. On ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. On ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il y a des paroles terribles dans l'Épître aux Hébreux. Il est dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et ce n'est pas aux inconvertis que Dieu parle, hein. C'est aux chrétiens. Et j'ai connu des chrétiens qui ont été châtiés de Dieu dans leur corps, dans leur bien. C'est dans leur relation. C'était un châtiment de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas un être humain, c'est Dieu, c'est notre Créateur. On a des comptes à rendre à Dieu. On peut jouer avec le péché, on peut jouer avec certaines choses, mais un jour, il faut rendre des comptes à Dieu. Et le jour où l'on doit rendre des comptes, nous ne le connaissons pas. C'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être dans l'heure qui suit. Cette jeune fille s'est tuée en voiture. Elle a pris sa voiture et elle est partie. Elle a cru qu'elle allait arriver. Elle n'est jamais arrivée. Elle a doublé un camion et le camion l'a rabattu et un courant d'air et voilà. Et elle s'est tuée. Et c'est moi-même qui ai fait ses obsèques en plus. Je peux vous dire, c'est quelque chose de terrible. On ne se moque pas de Dieu. Et ces personnes-là jouaient avec les choses saintes, les choses pures, avec l'Église du Dieu vivant. Ce n'est pas la chose d'un homme, l'Église. Ce n'est pas l'Église d'un pasteur ou d'un tel ou d'un tel. Le pasteur est un responsable dans l'Église, mais c'est l'Église du Dieu vivant. Faites bien attention. Quand vous avez dans vos relations les uns avec les autres, dans ce qui pourrait être tension les uns avec les autres, et Satan vous y encourage, et votre susceptibilité vous pousse dans cette direction-là. Faites bien attention, c'est l'Église du Dieu vivant. C'est le frère en Christ ou la sœur en Christ, on a une bonne amitié et tout cela, où on a des divergences, etc. Mais cette personne-là, c'est un frère ou une sœur en Christ, d'accord. Mais cette personne-là fait partie du corps de Christ, de l'Église du Dieu vivant. aujourd'hui, dans le monde chrétien, l'Église n'est plus regardée comme elle était regardée dans le passé. Savez-vous ce que c'est que de ne pas avoir une église, de ne pas vous joindre à un culte le dimanche matin, de ne pas avoir un coup de téléphone de frère en Christ, de ne pas avoir le sourire des frères et sœurs en Christ? Je peux vous le dire, je sais ce que c'est. Pendant des années, j'ai pas pu faire fréquenter une église. Je peux vous dire que on ne triomphe pas, on ne gagne pas de victoire. Dès que j'ai pu être dans une église, alors j'ai pu constater des victoires dans ma vie chrétienne que je ne possédais pas quand je ne pouvais pas fréquenter une église. C'est parce que c'est la puissance de l'église de Dieu. Vous faites partie du corps de Christ, de l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas peu de choses. Ne prononcez pas ces mots à la légère. Ce ne sont pas des points de doctrine. C'est l'Église du Dieu vivant. C'est pour cela que Paul insiste, et dans deux passages qui sont très rapprochés, il parle, c'est d'avoir une même âme, un même esprit pour la foi de l'Évangile, combattre d'une même âme. C'est combattre. On est ensemble dans une même lutte pour l'Évangile. Vous savez, il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont eu des collaborateurs. Et ils avaient une communion fraternelle exceptionnelle avec leurs collaborateurs. Et c'était une équipe puissante qui avait des résultats dans qui se manifestaient dans le monde entier. Je pense à Moody avec Sankey. Et je pense à Ruben Torre avec Alexander. Et c'était des hommes qui étaient parfaitement unis dans la foi de l'Évangile, dans le désir de gagner des âmes, de construire les églises, de consolider le corps de Christ. Ils avaient une même pensée, une même volonté. Et je connaissais un homme, il aurait pu être grand. Et il était second. Je ne prononce pas les noms. Il était le second de quelqu'un d'autre. Mais quand on analysait un petit peu son parcours et sa vie, il était, du point de vue des connaissances et de l'influence, plus élevé que celui derrière lequel il était. S'il avait voulu, il aurait été le numéro un. Mais jamais il s'est toléré une parole, une pensée, une action qui aurait pu laisser le doute qu'il voulait prendre la place de celui-ci qui était en premier. Il est resté toujours en arrière. Il est toujours resté le deuxième. Mais il pouvait être le premier. Et il aurait été largement le premier. Et il est probable même que s'il avait été le premier, l'Église y aurait gagné. Mais il était le deuxième, et pour ne pas créer de problèmes et de tensions, il est resté derrière. C'est quelque chose, vous savez, une humilité pareille, elle a droit à une couronne dans la présence de Dieu, dans l'éternité. Ce sont des actions qui marquent, mais vous avez un petit qui a rien du tout, et bien qui veut être monsieur, le premier. Il y a des personnes, ils disent, moi, on m'appelle Monsieur le Pasteur. Hein? On vous appelle Monsieur le Pasteur. Et dans le ciel, on vous appellera Monsieur le Pasteur. Qu'est-ce que nous serons dans le ciel? Ce n'est pas seulement avoir le titre, c'est d'être. Il faut l'être. Il y a des personnes qui veulent être ceci et cela et telle autre chose. Mais nous ne sommes qu'un corps en Christ. Nous sommes solidaires les uns des autres. Nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes dans un même corps en Christ. Après, bien, il y a des pasteurs, il y a des diacres, il y a des personnes qui sont responsables des enfants, responsables d'une chose, responsables d'une autre. Il ne faut pas qu'une personne pense que parce qu'elle est responsable ou parce qu'elle n'est pas responsable et qu'elle accomplit cette chose-là, moi, je vous savez, je ne fais que d'être, c'est, je ne suis que, si je me rappelle cette parole d'un homme, il dit, oh, moi, je ne suis que un tel. Ah oui, mais il y a monsieur un tel, mais moi, je ne suis que. C'est, on est. Mais il n'y a pas. Nous, on a, en tant qu'être humain, on regarde les titres et les positions. Mais je peux vous dire, il y a des femmes qui ont balayé dans l'église et qui ont passé la serpillière et qui ont passé l'aspirateur, mais qui étaient des femmes de prière et qui ont soutenu l'église et qui l'ont fortifiée. Et ces femmes-là auront une couronne et le pasteur ne l'aura pas. Parce que ces personnes ont construit l'église et les autres ne l'ont pas construite. C'est, il faut bien que nous comprenions que ce n'est pas à des titres ou à des positions ou à des pensées ou à des ceci et cela, mais c'est la fidélité, l'amour pour Christ, l'amour pour l'Évangile, l'amour de l'Église. Et il y a des personnes qui ont soutenu l'Église. Je vais vous dire, c'est encore une expérience personnelle, c'est le Seigneur me bénissait beaucoup. Et à un certain moment, la bénédiction commençait à diminuer. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et c'est même des années plus tard que j'ai fait la relation. Il y avait une femme qui était toujours dans l'église. Et cette personne-là est décédée. Et à partir de ce moment-là, mon ministère était à un niveau plus bas. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Il m'a fallu du temps pour faire la relation entre les deux. Cette femme priait, intercédait pour que l'évangile soit annoncé, que l'église grandisse, que quand je parle, l'Esprit de Dieu soit avec moi. Ces personnes-là sont indispensables dans l'église. Et nous, nous sommes avec notre égoïsme, nous pensons, ah si j'étais ceci, ah si j'étais cela. Mais je vais vous dire, soyez ce que vous êtes, soyez ce que vous devez être, ne soyez pas autre chose. C'est marcher selon l'appel que Dieu vous a donné. Si vous êtes, Dieu vous a demandé de prier et d'intercéder pour l'Église, alors ne cherchez pas à faire autre chose. Soyez complètement investi dans votre ministère, jour et nuit s'il le faut, si Dieu vous le demande. Mais vous dites, ah, mais moi, je ne suis pas prédicateur de l'Évangile. Oui, mais vous êtes l'homme ou la femme de prière qui est derrière le prédicateur de l'Évangile. Et eh bien, vous avez la gloire du prédicateur de l'Évangile sur vos épaules. C'est vous qui peut-être aurez la couronne et lui ne l'aura pas parce qu'il n'était pas fidèle. Il était soutenu par les prières de quelqu'un, mais c'était un tiède. C'est, je peux vous dire, il faut que vous regardiez de notre regard que le regard de ce monde. Le regard de ce monde, c'est ah, je suis ceci, ah, je suis ça, ah, moi, je suis. Je me rappelle un jour, il y a un homme qui est venu voir mon père. Et il a dit, monsieur, vous savez, moi, je suis un intouchable. Il lui a dit en secret, bien sûr. Alors mon père, qui était quand même assez, il avait beaucoup d'humour, il a dit, tu vois, j'ai du mal à parier tout de suite. C'est, mais c'est puéril, c'est enfantin. On se dit, mais un enfant de 10 ans va réfléchir à ne pas dire une pareille bêtise, mais un adulte va dire, ah, mais moi, moi je suis le prédicateur, moi je suis le pasteur de cette église, je suis le pasteur de la grande église qui est là-bas, où je suis et j'ai fait et je suis allé. Mais oui, mais vous savez, il y a des personnes qui prient, et ces personnes-là, eh ben, ne regardent pas comme essentielles. Si on regarde ceci et cela. Voilà, nous faisons ceci. Je me rappelle un jour, une personne savait que j'étais pasteur, donc elle est venue me voir et elle m'a dit, vous dans votre église, vous avez des nuits de prière? Ah, je lui dis non. Nous n'avons des nuits de prière. Nous n'avons pas de nuits de prière. Parce que on cherche à faire ce que l'Esprit de Dieu nous demande. Et Dieu ne nous a pas encore demandé une nuit de prière. Donc nous n'avons pas dans le programme des nuits de prière. Mais il y a une rivalité. Nous, nous avons. Nous, nous faisons. Nous, nous sommes. C'est manque, mauvais esprit, combattant d'un même esprit, d'une même âme, d'une même volonté. Mais cela implique l'humilité. Cela implique le renoncement à soi-même. Cela implique des qualités exceptionnelles. C'est que dans ce monde, on ne les regarde pas comme étant exceptionnels. Au contraire, oh ben, c'est un médiocre. Celui-là, ben, on peut lui dire des méchancetés, il répond pas. Quelqu'un m'a dit une chose comme ça un jour, d'une autre personne. Ah, tu peux dire n'importe quoi sur lui, il se fâche pas, lui. Et ce n'était pas une félicitation, hein. C'était même un désaveu. C'est regardé comme vraiment un nul, quelqu'un qui n'avait aucune personnalité. Mais le Seigneur Jésus, eh bien, quand on l'a outragé, quand on lui a craché dessus, il n'a pas répondu. Il n'a pas. Pourtant, il était le Dieu Tout-Puissant. Et il a dit, je pourrais demander 12 légions d'anges. Ces gens, une parole, ils auraient été disparus, écrasés. Mais il a donné sa vie. Lui, l'agneau de Dieu, humble, il est venu à notre secours, à notre aide. Mais c'est pour cela que Paul commence donc ce chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est une introduction à ce qu'il va dire au sujet de Jésus-Christ. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui est venu au milieu des hommes pour nous sauver, pour nous racheter, qui n'a pas regardé d'être le premier. Ça, c'est une autre fois. Mais ce que nous devons bien faire attention, quel est notre état d'esprit? Qu'est-ce que nous cherchons réellement? Quelles sont nos priorités? Sur quoi nous avons placé notre boussole? Elle indique quelle direction? Nos intérêts? Notre recherche personnelle? Ah, il y a des chrétiens qui disent, moi, vous savez, monsieur, je cherche la sanctification. Je m'appelle de quelqu'un qui m'a dit ça. Je cherche la sanctification. Eh bien, je vais vous dire, il y a aussi des gens qui cherchent Jésus-Christ. Et ceux qui cherchent la sanctification sans chercher Jésus-Christ, ils ne trouvent ni la sanctification ni Jésus-Christ. Mais ceux qui cherchent Jésus-Christ et qui cherchent à être remplis de Jésus-Christ, eh bien, ils trouvent la sanctification. Où sont nos priorités? Qu'est-ce qu'on cherche en réalité? Si on cherche nos intérêts, si on cherche à être de meilleurs chrétiens, à être des chrétiens spirituels, à être des chrétiens qui dépassent les autres, ah, oui, j'emploie les mots, hein, on ne parle pas de péché là, mais des chrétiens qui veulent être supérieurs aux autres chrétiens, on ne marche pas dans l'esprit de Jésus-Christ. On cherche à grandir. Mais on cherche à que le frère et la sœur qui est avec nous grandissent aussi. Celui qui cherche à grandir tout seul, il grandira pas du tout. Ce qu'il faut, c'est grandir ensemble parce que nous sommes une église. Nous sommes le corps de Christ. Nous marchons ensemble. Celui qui marche individuellement marche tout seul. Et il ne fait pas de progrès. Il ne fait pas de vrai progrès. C'est d'ensemble que l'on avance. Et si vous cherchez à ce que les autres avancent, eh bien, je vais vous dire, vous ne vous rendrez pas compte à quel point vous avancez, parce que vous cherchez à ce que les autres avancent. Mais si vous cherchez à avancer, à être le premier, à être le meilleur chrétien, le meilleur homme de prière, la meilleure femme de prière, le meilleur ceci, le meilleur cela, vous ne réussirez pas, parce que vous êtes dans un esprit d'individualisme, d'égoïsme, de recherche personnelle. Avec de bonnes motivations. Ah, ça, c'est même Satan peut vous sanctifier, même, hein, si je peux mettre Satan et sanctification ensemble. Mais en fait, Cela va tourner à votre recherche personnelle, à votre égoïsme, à vos intérêts personnels. Et vous ne cherchez pas les intérêts de l'Église de Christ, l'Église de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour son Église. Et c'est quelque chose de merveilleux et d'exemplaire, au-delà de toute mesure. Nous allons prier. Ô Père céleste,